Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
La foi qui déclenche le miracle. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. C'est une histoire vraie qui s'est déroulée à l'époque de Jésus. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Alors, je vais voir s'il me reste encore quelques brins de la fibre évangéliste que j'avais au départ. Alléluia. La foi qui déclenche le miracle. Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui répondit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Une histoire merveilleuse. Jésus dit, « Ta foi t'a sauvée. » Et je me pose la question, pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il disait « Ta foi t'a sauvé ». Est-ce qu'il y a une différence entre la foi qui sauve et la foi que nous avons? Et à chaque fois que Jésus faisait un miracle, il posait la question à quelqu'un, « As-tu la foi ?» Et si la personne disait « Oui, alors, le Seigneur le guérissait », il disait « Ta foi t'a sauvé ». On aurait pu dire « C'est Jésus qui l'a guéri ». Mais il dit « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré. » La Bible nous révèle que nous tous nous avons la foi. Même le diable et les démons ont la foi. Parce que la Bible déclare que les démons aussi croient que Dieu existe. Mais ils tremblent. Et vous allez rencontrer beaucoup de personnes, quand vous leur parlez du Seigneur, ils vont vous dire, « Moi aussi je crois que Dieu existe. » Et nous tous nous sommes ici présents parce que nous croyons que Dieu existe. Nous ne sommes pas athées. Même celui qui se dit athée, quelque part, il a une croyance, même s'il dit qu'il croit en lui-même. Il a une croyance. Donc, il y a quelque part, de façon naturelle, une semence de la foi dans l'être humain, dans l'homme. Mais ici, Jésus fait la différence entre cette foi naturelle et la foi pour être guéri. La foi pour être sauvé. La foi pour être délivré. La foi pour sortir de nos difficultés, de nos épreuves. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui nous explique ça dans le livre de Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1. Nous lirons juste le verset 1. L'apôtre Paul définit quelle est cette foi. Il dit, « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Au départ, nous avons une espérance par rapport à quelque chose que nous attendons. Alléluia. Et à cette espérance s'ajoute une ferme assurance. Mais cette assurance, pour qu'elle nous permette d'obtenir ce que nous recherchons, doit se manifester, se matérialiser, alléluia, par quoi? Par une démonstration. Donc, trois notions importantes, trois dimensions importantes à noter en ce qui concerne la foi qui permet d'être guéri, la foi qui permet de délivrer, la foi qui nous permet de sortir de nos difficultés, la foi qui nous permet de déclencher le miracle dans notre vie. Première dimension, l'espérance. Deuxième dimension, l'assurance. Troisième dimension, la démonstration. Alléluia. Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert, ça c'est même pas la Bible qui le dit, mais j'ai découvert une définition que les gens du monde ont donnée de ce que c'est l'espérance. On va commencer par ce que c'est l'espérance. Le dictionnaire définit l'espérance comme étant une disposition de l'âme, qui vient du mot grec philos. Une disposition de l'âme qui porte l'homme à croire et à attendre avec ferveur l'obtention d'un bien à venir. Ça, c'est l'espérance. Une disposition d'âme qui porte l'homme à croire et à attendre avec ferveur l'obtention d'un bien à venir. Alléluia. Et cette femme, la Bible déclare au verset 25, cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, elle attendait avec patience qu'un jour, quelqu'un, ou peut-être la nature, comme disent certains, ou peut-être les médecins, lui apporterait la guérison à son corps. Pendant 12 ans. Imaginez-vous une femme pendant 12 ans, en train de traîner une perte de sang. De nos jours, généralement, lorsqu'une femme est atteinte d'une perte de sang, du moins lorsqu'une femme, généralement de façon normale, okay, manifeste une perte de sang, c'est en période de menstruation. Et normalement, la période de perte de sang dure en moyenne 3 à 7 jours, en fonction de l'organisme de la femme. Jusqu'à 7 jours, c'est encore, il n'y a pas encore de problème. Même jusqu'à 9 jours, il n'y a pas encore de problème. Il n'y a pas à s'inquiéter. On ne pourrait pas parler de troubles dans son cycle de menstruation. Mais la Bible déclare que cette femme, elle perdait son sang tous les jours pendant 12 ans. Imaginez-vous, 12 ans, c'est 365 jours multipliés par 12. Et quand je fais le calcul, 365 jours multipliés par 12, ça fait 4381 jours. Pendant 380 jours, elle perdait du sang tous les jours que Dieu faisait. Et à cette époque, en Israël, il y avait une loi qui interdisait aux femmes atteintes donc de perte de sang, ou encore en période de menstruation, ou encore les règles, comme on l'appelle couramment, de faire quelque chose que ce soit ni préparer, ni s'occuper de son mari, ni avoir des rapports sexuels avec son mari, ou encore sortir. La loi interdisait. Alors, c'est bizarre qu'en Israël, il y avait tellement de lois bizarres qui interdisaient tout, et particulièrement aux femmes. Pourquoi? Parce que la femme, en cette période de perte de sang ou encore de menstruation, était considérée comme impure. Donc, elle n'avait pas le droit de sortir. Imaginez-vous quelqu'un qui va rester pendant 12 ans enfermé dans une maison parce qu'elle est considérée comme impure, elle perd du sang. Donc, elle ne peut pas entreprendre. Elle ne peut pas aller au travail. Elle ne peut pas avoir des enfants. Elle ne peut pas aller voir les parents. Elle ne peut pas aller voir les voisins. Elle ne peut rien faire. Elle va rester isolée pendant 12 ans. Et la question que je me suis posée, c'est comment pendant 12 ans, elle perd du sang, mais elle n'est pas morte? Comment pendant 12 ans, elle est dans une telle situation où elle ne peut rien faire, mais quand même, elle continue à vivre? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, devant une telle situation, je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir des enfants, je ne peux pas avoir un mari, je ne peux rien faire. La seule chose, c'est qu'au lieu de continuer à vivre comme ça, alors je décide une chose, c'est de me donner la mort. Et c'est comme ça que beaucoup se suicident. Parce que devant une telle situation, il n'y a plus d'espérance. On perd l'espérance. Il n'y a rien qui se pointe à l'horizon qui peut nous montrer qu'effectivement, nous pouvons encore espérer et croire qu'un jour, nous sortirons de là. Mais elle déclare que cette femme a continué à vivre pendant 12 ans. Pourquoi? Parce que cette femme avait quelque chose en elle. Et je me suis posé la question, c'est quoi qui était en elle et qui lui donnait la possibilité de vivre pendant 12 ans? Et pendant, vous savez, l'organisme d'être humain, nous n'avons qu'en moyenne 5 à 7 litres de sang. Là encore, c'est en fonction du poids. Okay? Sachant que scientifiquement, il est prouvé que pour un gramme, okay, il faut prévoir en moyenne plus de 70 millilitres de sang pour un gramme. Donc, en fonction de ton poids, tu peux avoir plus ou moins 5 à 7 litres de sang. Alors, cette femme, pendant 4380 jours, elle perdait de son sang. Mais malgré cela, elle a continué à vivre. Qu'est-ce qui faisait vivre cette femme? La Bible nous révèle cela dans le livre de Job. Nous allons lire ensemble le livre de Job. Alléluia. Job chapitre 14. Verset 7. Job chapitre 14, verset 7. La Bible déclare, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. La Bible nous révèle, un arbre a de l'espérance. Et parce que l'arbre a de l'espérance en lui, alors quand on le coupe, il repousse et continue encore à produire du fruit. Et la Bible déclare que nos vies, l'être humain est comparé à un arbre. Nous sommes, dit Dieu dans sa parole, des arbres. Alléluia. Des arbres qui, pour certains, sont plantés par un courant d'eau, pour d'autres, peut-être pas encore, mais nous sommes des arbres. Dieu assimile la vie de l'être humain à un arbre. Et la Bible déclare que, aussi longtemps que l'arbre existe, il a en lui la semence de l'espérance. Il porte l'espérance en lui. Et quand on le coupe, qu'est-ce qui se passe? Il repousse et il porte encore de rejetons. Il porte encore du fruit. Mon bien-aimé, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as en toi, dans ta vie, une semence qu'on appelle l'espérance. C'est ça qui te fait vivre aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait vivre cette femme pendant 12 ans. Parce qu'elle portait en elle l'espérance. Les gens du monde m'ont dit, l'espoir fait vivre. Mais l'espérance repose sur l'espoir. Parce que l'espérance fait naître l'espoir. Et l'espérance donne la vie. Alléluia. Sans espérance, vous ne pouvez pas vivre. Bien-aimé, sans espérance, vous allez mourir. Et la première dimension de la foi qui nous permet de pouvoir déclencher le miracle dans notre vie, c'est la dimension de l'espérance. Si tu n'as plus d'espérance, tu ne pourras pas vivre. Si tu n'as plus d'espérance, tu vas te décourager devant les difficultés que tu traverses. Si tu n'as plus d'espérance, tu ne pourras pas vivre longtemps sur la terre. Parce qu'à chaque situation, tu vas te décourager. Et quand l'épreuve semble difficile, tu vas vouloir te donner la mort. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes mourir. Parce qu'elles ont perdu l'espérance. Et la vie est faite de telle sorte que il y a tout ce qui existe pour nous faire perdre l'espérance. Les situations, le contexte est tellement difficile. Il faut travailler dur pour avoir sa vie. Et quand on essaie d'aimer quelqu'un, encore faudrait-il qu'effectivement cette personne puisse nous rendre cet amour parce que le cœur de l'homme est mauvais, dit la parole de Dieu. Et dans le cœur de l'homme, il y a toutes sortes de mauvaises pensées, des adultères, des infidélités, des déceptions. Et quand on essaie de mettre notre espérance en quelqu'un, voilà que notre château qu'on a commencé à construire va s'effondrer au bout de quelques années ou de quelques mois. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre notre confiance en l'homme. Il n'a qu'un souffle en lui et qui peut disparaître toujours au lendemain. Même l'homme peut nous le faire voir. Alléluia! Et la vie est tellement difficile qu'aujourd'hui, les gens préfèrent se donner la mort. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes se suicider. Parce qu'ils ont perdu l'espérance. Sans espérance, nous ne pouvons pas vivre sur la terre. Et mon frère, ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Tu es là, peut-être que tu n'as plus d'espérance. Tu es venu peut-être parce qu'on t'a invité. Mais dans ta vie, tu sais, au fond de toi, que tu n'as plus d'espérance. La vie est difficile. Tu as cherché le travail pendant longtemps, tu ne trouves pas. Tu as fait des études, tu as même gagné des diplômes, tu as été meilleur dans ta classe, dans ta promotion. Il n'y a rien dans ton niveau d'études ou encore même dans ta vie qui explique aujourd'hui le fait que tu ne trouves pas de travail. Alors tu as perdu l'espérance. Et la preuve que tu as perdu l'espérance, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu ne forces même plus. Tu te dis, de toutes les façons, si un jour je trouve du travail, gloire à Dieu, si je ne trouve pas de travail, c'est pas grave. Et beaucoup sont obligés d'aller faire des travaux qui ne correspondent même pas à leur profil de vie, ni encore leur profil d'études. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'espérance. Ils n'ont plus que ça à faire. Et le but du diable sur la terre, c'est de tuer votre espérance.
C'est son travail. Et comment le diable tue l'espérance? Eh bien, par des mauvaises pensées, par la frustration. Il y en a qui sont résignés complètement dans la vie. Les rêves que vous aviez au départ dans votre enfance, face aux difficultés de la vie, vous les avez perdus. C'est la preuve que vous avez perdu votre espérance. Mais si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas dans la foi, parce que la première dimension de la foi, c'est l'espérance. Et nous devons nous battre pour garder notre espérance. Si nous n'avons plus d'espérance, nous ne viendrons plus à l'église. Si nous continuons à venir à l'église sans espérance, ça veut dire que nous venons à l'église sans le minimum de la foi. Alors, ce que nous faisons, nous venons simplement pour accomplir un acte religieux. Et c'est là qu'est née la religion. Ça devient la tradition, ça devient la routine. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'espérance. Pour obtenir le miracle dans notre vie, pour obtenir les choses que nous demandons à Dieu, les choses que nous désirons, auxquelles nous espérons, nous avons besoin, dit la Bible, avant de les obtenir, avant qu'on arrive, d'avoir une ferme espérance. Alléluia. Il y a des couples aujourd'hui, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne se parlent plus. C'est tellement que tu es concerné par ce message dans la salle. La seule chose qui vous reste, c'est bon, on a les enfants. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On va rester là pour au moins sauver le couple, les enfants, parce que on n'a pas envie que les enfants puissent se retrouver à la DAS ou encore pour être gardés par une personne, ou on soit en train de se partager la garde des enfants. Donc, pour au moins les enfants, pour l'équilibre des enfants, nous allons rester ensemble. Mais il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus d'émotions qui vibrent comme au premier jour. Pourquoi? Parce que le comportement de l'un et de l'autre, le caractère de l'un et de l'autre, ou encore les situations difficiles de la vie, les problèmes de famille de l'un et de l'autre ont fait en sorte que votre amour, vos sentiments ont complètement été anéantis. Donc l'espérance que vous aviez d'avoir un couple heureux, une famille unie est complètement détruite. Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous n'avez plus d'espérance. Et là, déclare que cette femme a mis son espérance dans les médecins. Au verset 26, on dit qu'elle allait de médecin à médecin. Elle a dépensé son argent, son temps, pour chercher la guérison. Mais la Bible déclare que la situation allait en s'empirant et de plus, ça l'a épuisée physiquement, moralement et financièrement. Pourquoi? Parce qu'elle a mis son espérance dans l'homme. Elle a mis son espérance dans un système scientifique médical. Elle a mis son espérance dans un système économique et financier. Bien-aimé, vous ne pouvez jamais déclencher votre miracle dans votre vie par rapport aux choses que vous espérez envers Dieu si vous mettez votre espérance dans l'homme. Ne mettez jamais votre espérance dans l'homme. Ne mettez jamais votre espérance dans un système. Ne mettez jamais votre espérance dans la médecine. Parce que l'homme a des limites. La médecine a des limites. L'économie a des limites. La politique a des limites. Alléluia. Mais la Bible déclare, Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alléluia. Jésus-Christ est la personne en qui nous pouvons mettre notre espérance. Si tu es en Christ, la Bible déclare que Christ sera en toi. Et si Christ est en toi, si tu as reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur et Seigneur dans ta vie, la Bible déclare que Christ habite en toi. Et si Christ habite en toi, alléluia, Christ en toi est l'espérance de la gloire. S'il n'y a pas Christ en toi, il n'y a pas d'espérance pour ton miracle. Alléluia. Si Christ n'est pas dans ta vie, il n'y a pas d'espérance pour ta situation. Tu vas mettre ton espérance dans l'homme, l'homme va te décevoir. Il va essayer de faire quelque chose, mais il y aura des limites à un moment donné, l'homme ne pourra plus rien faire. Tu vas mettre ta confiance dans un système. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vraiment des problèmes financiers en ce moment parce que j'avais commencé à faire mes plans, j'avais commencé à faire mon budget et j'avais tout planifié. Là maintenant, je me retrouve dans une situation compliquée parce que la CAF m'a écrit et la CAF m'a dit qu'en fait, je leur devais jusqu'à 1 500 €. Pourquoi? Parce que la CAF a recalculé. Vous savez, la CAF, c'est eux qui décident. Hein? Aujourd'hui, ils te calculent que voilà, ils te doivent quelque chose. Demain, après, c'est toi qui leur dois quelque chose. Et donc, ils ont fait un rappel. Comme quoi, en fait, ils devaient 1 500 € à la CAF. Donc, du coup, ces espérances sont tombées, se sont écoulées. Pourquoi? Parce que la personne avait fait ses plans en calculant avec la CAF. Donc, il a fait ses calculs, il a mis sa foi sur l'espérance que bon, quand la cave va tomber, donc au bout de tant de mois, voilà, je fais ça. Il a fait son budget en s'appuyant sur la cave. Et donc, quand il reçoit le courrier, il se rend compte que finalement, elle ne peut plus fournir cette espérance parce que la cave demande de rembourser 1500 euros. Or, elle n'a pas 1500 euros. Et voilà comment elle rentre dans un découvert pendant 8 mois. Des chèques rejetés. Les dettes. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa confiance dans un système. Ne mettez pas votre confiance dans un homme. Ne mettez pas votre confiance dans un système. Ne mettez même pas votre confiance dans vos richesses. Parce qu'un jour, et vous, et vos richesses, vous allez périr. Et qu'est-ce qu'il restera de votre espérance? La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui un jour s'est amassé beaucoup de biens. Il s'est enrichi. Et puis à un moment donné, il s'est dit, ah mon âme, tu es riche maintenant. Repose-toi en paix. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Même tes descendants, ta génération, etc. va vivre pendant longtemps. Maintenant, repose-toi, ne fais plus rien. Parce que tu pourras manger jusqu'à quand tu mourras, etc. Tes enfants aussi pourront manger. Mais la Bible déclare quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, incrédule, insensé. Ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et toi et ta richesse, où est-ce que tu en serais? Qui va profiter de ces richesses? Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa confiance, il avait mis son assurance dans ses richesses. Mais ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. La première dimension de la foi, c'est l'assurance qui ne repose ni sur un homme, ni sur un système, ni sur tes propres biens, ni sur ta famille, ni sur ton mari, ni sur qui que ce soit, mais qui repose sur Christ. Parce que la Bible déclare que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance qui nous conduit au miracle. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance qui nous propulse dans la victoire. Alléluia. Et ce soir, si tu n'as pas Christ dans ta vie, si tu as fondé ton espérance sur quoi que ce soit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton espérance et toi-même, vous allez vous écrouler. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ est là derrière pour te récupérer. Alléluia. Il est là pour te recevoir. Il est là pour t'accueillir. Alléluia. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Pendant ces 12 ans, il n'y avait aucun message qui pouvait lui donner une espérance forte pour pouvoir être guérie. Elle avait l'espérance sur elle-même, oui, elle avait l'espérance de la vie qui lui donnait effectivement son courage. Elle avait l'espérance qu'un jour les médecins pourraient la guérir, mais ça ne suffisait pas parce que toutes ces... L'espérance ne pouvait pas la guérir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu parler de Jésus. Et ici, il y a une vérité importante que nous devons ressortir, qui est importante à noter, c'est que l'espérance de cette femme va changer de dimension à partir du moment où elle va entendre parler de Jésus. Elle a dit là que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qui est la parole? Jésus est la parole. Alléluia. Donc, en d'autres termes, la véritable espérance vient de la parole qui s'est faite chair. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Cette parole est venue dans le monde en forme de lumière, même s'il y en a qui l'ont rejetée, mais elle est restée la parole, elle est restée Dieu. Et la Bible déclare que lorsque cette femme a entendu parler de cette parole, quelque chose s'est passé en elle. Alléluia. Pour vous dire qu'en fait, la véritable espérance s'attache à la parole de Dieu. La véritable espérance s'attache à ce qu'on entend de la parole de Dieu. La véritable espérance vient d'en haut. Elle ne vient pas d'un homme ni d'un système. Eh bien aimé, ce soir, toi qui entends la parole de Dieu, si tu as perdu l'espérance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas retrouver l'espérance. Parce que la parole que tu entends, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas moi. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole vivante, la parole qui s'est faite chair, qui est venue parmi les hommes. Elle est là parmi nous ce soir. Alléluia. Elle est là pour te redonner de l'espérance. Et si tu entends cette parole, tu vas pouvoir retrouver l'espérance. Parce que l'espérance redonne la vie. Alléluia. Et la véritable espérance, elle est fondée sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important, même en tant que chrétien, de lire la parole. De lire la parole. Parce que si nous lisons la parole, l'espérance qui est en Dieu, l'espérance de Dieu vient en nous et elle nous soutient pendant les moments d'épreuve. Ce sont les promesses que Dieu a faites dans sa parole qui vont réaviver l'espérance en nous, qui vont soutenir notre foi, qui vont pouvoir effectivement porter notre espérance vers les choses auxquelles nous espérons, que nous attendons de la part de Dieu. S'il n'y a pas de promesse en nous, il n'y a pas d'espérance. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La véritable espérance est attachée aux promesses de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as plus l'espérance. Vous savez, c'est très facile de voir dans l'église les gens qui ont perdu l'espérance. Premièrement, elles ne veulent plus venir à l'église. Et quand elles viennent à l'église en traînant les pas, parce qu'elles sont fatiguées et chargées, elles sont vraiment sous le poids des soucis, des problèmes, elles ont prié, elles ont espéré, elles ont attendu, il n'y a rien qui arrive. Les hommes de Dieu sont venus, on a fait des prophéties, on a parlé, il n'y a rien qui arrive. On leur dit, bon voilà, tu vas trouver du travail, quelque chose va se passer ta vie, il attend, le travail ne vient pas. Voilà, tu vas avoir une promotion, il attend, la promotion ne vient pas. Tu vas avoir un mari, tu vas avoir une femme, il attend, la femme ne vient pas, le mari ne vient pas. Et comme elle a porté son espérance sur ce que l'homme de Dieu a dit, sur ce qu'on lui a dit à l'église. Alors, quand vient l'épreuve, son espérance ne tient plus debout. Parce qu'elle a fondé son espérance sur du sable. Elle a bâti sur du sable. La Bible déclare, il y a deux personnes un jour qui ont bâti les maisons. Il y a une personne qui a construit sur du sable. La pluie est arrivée, les vents ont soufflé, les torrents sont tombés. La maison n'a pas pu subsister. Mais quelqu'un d'autre a bâti sa maison sur du roc. Alléluia. Quand les vents sont arrivés, les torrents sont venus, l'orage a soufflé, sa maison a subsisté. Il y a des gens qui viennent à l'église, non pour écouter Dieu, mais pour écouter les hommes de Dieu. Ils attendent, ils espèrent recevoir de l'homme de Dieu une parole qui va changer sa vie. Comme cet homme qui était paralytique, il était donc là, mendiant, à la porte, la belle, et qui attendait à obtenir de Pierre et de Jean quelque chose. Et quand Pierre et Jean l'ont regardé dans les yeux, ils disent, ils s'attendaient à recevoir quelque chose de nous. Mais Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent. La seule chose que nous avons, nous te la donnons, c'est Jésus. Alléluia! Et beaucoup de personnes viennent à l'église, ils ont le regard porté sur le prophète, porté sur l'évangéliste, porté sur le pasteur, sur l'apôtre, sur les ministères qui arrivent. Parce qu'ils ont la puissance, parce qu'ils ont l'onction. Mais ce ne sont que des hommes. Alléluia. Voilà pourquoi vous passez à côté de votre miracle. Parce que votre espérance se porte sur eux. Et ce que vous devez savoir, c'est que eux, ils sont des hommes. Ils prophétisent en partie. Ils manifestent la puissance en partie. Parce qu'ils ne sont pas tout puissants. Ils ont la puissance. Quand je dis que j'ai la puissance, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai, que je possède. Et quand je possède quelque chose, je peux la perdre, cette chose. Alors que Dieu n'a pas la puissance. Alléluia. Dieu, il est puissant. Dieu est puissant. Donc, si moi, je porte mes regards sur l'homme de Dieu, à un moment donné, la limite qu'il transporte aura de la puissance qu'il transporte aura des limites. Pour peu qu'à un moment donné, il soit fatigué, la foule est nombreuse, il commence à somnoler, il n'arrive plus à bien voir prophétiquement. Il regarde deux personnes assises ensemble, habillées en robe blanche, robe. Il dit, vous deux là, vous allez vous marier. Mais à la fin, il se rend compte que non, c'est frère et soeur, même père, même mère. Mais il était fatigué. Oui, ça peut arriver. Mais même dans le monde, quand on fait la communication, on dit en fait, il y a ce qu'on appelle des parasites en communication. Donc, dans le canal, s'il y a des parasites, La communication ne passe plus bien. Il y a des interférences. Et parmi les parasites, il y a quoi? On cite parmi les parasites la fatigue, le manque de concentration, les bruits extérieurs comme ce qui se passe là. Donc ça peut déconcentrer les deux. Donc pourvu qu'il y ait des éléments qui arrivent dans la salle, qui fassent perdre à l'homme de Dieu la sensibilité à l'esprit, voilà qu'il va commencer à dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est un faux prophète. Alléluia. C'est que les dispositions lesquelles il était peut-être n'ont pas permis de bien percevoir. Et même quand c'est un vrai prophète, il peut faire des erreurs. Les erreurs des prophètes, c'est quoi? Les vrais prophètes, hein, leurs erreurs, c'est généralement des erreurs d'interprétation. Il voit quelque chose et il n'a pas la juste interprétation sur le moment. Alors il libère. C'est pourquoi la Bible déclare dans Actes chapitre 13, nous prophétisons en partie. Pareil pour les évangélistes. Il va manifester la puissance. Mais à un moment donné, il y a une limite dans sa vie qui fait qu'il y a des cas qu'il ne peut pas résoudre. Parce qu'il n'est pas tout puissant. Même Jésus lui-même n'a pas guéri tous les malades d'Israël. Il n'a pas fait lever tous les paralytiques d'Israël. S'il l'avait fait, il n'aurait pu demander à ses disciples que quand je vais partir, hein, vous devez faire les mêmes miracles que moi et des miracles encore plus grands. Les malades, il y en aura toujours. Les paralytiques, il y en aura toujours. Les problèmes, il y en aura toujours. Mais si nous mettons notre espérance sur l'homme, eh bien l'homme a des limites. Notre espérance doit reposer sur la parole de Dieu. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Elle a appris qu'avec quelqu'un qui était dans les parages, qui guérissait les malades, qui était le Tout-Puissant. Oh, celui à qui l'ange a dit, un fils vous est né, un enfant vous est donné, et la domination entière reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller Dieu puissant. Alléluia. Elle a entendu parler qu'il y avait le Dieu puissant dans les parages. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, elle a porté son espérance sur la personne de Jésus. Jésus. Et cette espérance ne faillit jamais. Je ne sais pas sur qui vous avez porté votre espérance durant l'année 2008 pour expliquer le fait que jusqu'à présent, vous soyez encore dans vos difficultés. Si c'est sur l'apôtre, c'est normal que vous soyez encore dans vos difficultés. Si c'est sur les pasteurs, c'est normal. Si c'est sur le prophète, c'est normal. Si c'est sur l'évangile, c'est normal. Si c'est sur les ministères qui viennent ici, c'est normal. Mais si votre espérance est attachée à Jésus, la Bible déclare que Christ en vous sera l'espérance et la gloire. Alléluia. Sera l'espérance et la gloire. Donc, notre espérance doit être attachée à la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, l'espérance a des limites. Parce que ce n'est que la première dimension de la foi. Ce n'est que la première dimension. Il dit, c'est d'abord l'espérance, ensuite, il y a autre chose qui arrive. Donc, l'espérance nous fait vivre, l'espérance nous donne la vie, et c'est bien. Quand nous avons l'espérance, nous pouvons encore avoir du courage, on peut encore avoir de la force, on peut encore venir à l'église, on peut encore venir prier. Quand on a l'espérance, on prie. Si tu ne pries plus, c'est que tu as perdu l'espérance. Il faut que de ce soir, tu demandes à Dieu de réactiver ton espérance. Mais c'est facile de voir les gens qui n'ont plus d'espérance. Ils ne prient plus. Ils viennent à l'église, quand c'est la louange, ils ne chantent plus. Levez-vous, elle se lève. Des fois, elle ne veut pas se lever, elle est assise. J'ai mes problèmes. J'attends seulement l'homme de Dieu quand il va prêcher. Et même quand l'homme de Dieu prêche, non, c'est pas, elle n'est pas là. Elle attend la fin. Quand on dit, venez ici devant, on va prier, là, maintenant, elle vient. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne veut plus rien faire. Elle ne veut plus prier, elle ne veut plus louer le Seigneur, elle ne veut plus chanter, elle ne veut plus rien. Elle attend juste son miracle. Mais quand on a de l'espérance, on prie. Un jour, je disais à quelqu'un qui me voit pour la prière, vraiment j'ai des problèmes, pasteur, comment ça me cite ses difficultés, ses problèmes, etc. et tout. Et quand je lui pose un peu la question, savoir comment tu vis ta vie chrétienne, dans son planning journalier, il n'y a aucun moment où on voit la prière, aucun moment où on voit la lecture de la parole de Dieu, aucun moment. C'est, je sors, je m'en vais à l'école. Je m'en vais à tel endroit, je reviens, etc. et tout. Bon, le jour de réunion, je vais à les réunions. Mais il n'y a aucun moment où tu vois vraiment dans son programme la place de Dieu. Et dans son programme, tu vois, à telle heure, il est devant la télévision. Tu regardes quoi? Bon, je regarde les films. Quel genre de films? Quand je pose des questions comme ça, en fait, les gens pensent que je m'intéresse aussi pour savoir un peu. Non, moi, je veux savoir comment tu fonctionnes dans ta foi. Et là, on commence à me regarder. Non, voilà, je regarde les films, je fais ça. Donc, de 21h à 22h30, 23h, tu es là en train de passer tes DVD, tes films policiers, tes films d'humour, tes films d'amour romantique. Ok? Tu es devant la télé. Au lieu de prier, à la fin, je lui ai dit que j'ai une parole de Dieu pour toi. Et la personne a dit, ça y est, le prophète va prophétiser sur ma vie et ça y est, mes problèmes seront résolus aujourd'hui. J'ai dit, j'ai une parole de Dieu pour toi, mon frère. C'est que tu n'es pas dans les problèmes. J'ai dit, tu n'as pas de problème. Il me dit, mais non. J'ai dit, non, tu n'as pas de problème. Parce que je ne conçois pas quelqu'un qui a des problèmes et qui est là à longueur de journée ou bien le soir, devant la télévision, en train de regarder des films, sans prier. J'ai dit, non, mon frère, t'as pas de problème. Parce que quelqu'un a des problèmes, il ne dort pas. Il prie. Il pleure. Il se lamente devant la face de Dieu. Oh, Seigneur, aide-moi. Lisez les psaumes. Vous comprenez? Quelqu'un qui a des problèmes. David. Il dit, oh, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Son âme. Tous les jours, soupir après l'Éternel. Mon Dieu, fais-moi justice. Lève ma tête en face de mes adversaires. Je suis mon front en face de mes ennemis. Éternel, tu n'as pas de problème, mon frère. Tu n'as pas de problème, ma soeur. Parce que celui qui a l'espérance, qui a les problèmes, il prie. Celui qui a l'espérance, il vient à l'église. Celui qui a des problèmes, il vient chanter pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a l'espérance de Dieu en lui. Qu'un jour, ses problèmes seront résolus. Alléluia. Alléluia! Il y a des gens. Non, je ne vais pas. Pour l'instant, je ne vais pas encore m'engager à l'église parce que j'ai trop de problèmes. En fait, tu n'as pas de problème. Parce que si tu as compris que tu as des problèmes, tu dois servir Dieu. Il a dit cherchez d'abord mon royaume, après les problèmes seront résolus. Non, tu n'as pas de problème. Oh, j'ai trop de problèmes. Pour l'instant, je suis découragé, je ne viens pas à l'église. Tu n'as pas de problème, reste chez toi. Alléluia. Ça, c'est important de le comprendre. L'espérance est importante. Elle nous fait vivre. L'espérance, elle donne la force. L'espérance, elle donne de prier, d'intercéder, de jeûner même. C'est une bonne chose. Mais l'espérance a des limites. Parce qu'elle ne se limite qu'à nous donner la vie. Mais que sert-il à un homme de vivre avec les problèmes? C'est là qu'intervient la deuxième dimension de la foi. L'assurance. Quand on rend à l'assurance, la définition de l'assurance, c'est quoi? L'assurance est une conviction profonde de cœur qui ne t'amène plus à croire aux choses que tu espères, mais qui t'amène à savoir que tu les possèdes déjà. Elle ne t'amène plus à espérer, à croire que les choses arrivent, mais dans ton cœur, tu as une intime conviction, une preuve évidente que les choses que tu demandes à Dieu auxquelles tu espères, tu les as déjà obtenus. L'assurance est le signe intérieur de l'exaucement de nos prières par Dieu. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom et sur ma volonté, ayez dans votre cœur l'assurance que vous l'avez obtenue. Donc nous devons grandir un tout petit peu dans notre foi. Quitter la dimension d'espérance pour rentrer dans la dimension d'assurance. Voilà pourquoi moi je me dis, je ne crois plus, mais je le sais. Et pour obtenir l'assurance, bien-aimés, ce n'est pas en restant dans l'espérance. Non, la Bible déclare que, alléluia, merci Seigneur pour ta parole. La Bible déclare qu'il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu aient dans leur cœur la preuve évidente de son existence. Donc pour avoir l'assurance, il faut qu'on s'approche de Dieu. Chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, Dieu nous donne l'assurance. Nous quittons le stade d'espérance et nous rentrons dans l'assurance. Les gens qui ont l'assurance, c'est des personnes qui sont difficilement ébranlables. Difficilement ébranlables. Quand tu as l'espérance, tu peux encore paniquer devant les situations. Quand tu as l'espérance, vous savez, c'est quand l'espérance, hein, tu poses la question, frère, est-ce que ça va ton dossier là-dedans? Oh oui, ça va, par la grâce de Dieu. ça va aller, ça va aller. Pourquoi? Parce qu'elle a l'espérance, elle attend. Elle attend. Et quand tu as l'espérance, ça va mon frère? Oh, ça va. Et ton dossier là? Là, je remets entre les mains du Seigneur. Mais Dieu fera, Dieu fera. Mais il compte les jours. Dieu fera. Et quand tu t'en vas, tu te retournes là. Dieu, Seigneur, il faut que tu fasses maintenant. Ah, Seigneur, ah, vraiment. Mais elle est impatiente. Elle attend. C'est normal, c'est l'espérance. L'espérance te permet d'attendre. Mais si tu restes toujours dans l'espérance, tu vas stresser. Oui, tu vas stresser. Parce que tu es dans le suspense à chaque fois. Est-ce que le pasteur va prier pour moi? Quand il va poser la main? Peut-être que c'est aujourd'hui la guérison. Après, il n'y a rien. Ah, Seigneur. Encore un autre jour. Donc, tu es dans le stress. Et pour que tu sois tranquille, il faut que tu quittes la dimension d'espérance pour rentrer dans la dimension d'assurance. Tu dois grandir un tout petit peu dans la dimension de ta foi. Alléluia. Parce que l'espérance, c'est pour les enfants. Pour faire un peu le parallélisme autant pour moi de loi. Alléluia. Le parallélisme de loi nous dit quoi? Que l'enfant, ok, quand il y a encore l'enfant, il a des attentes. L'enfant a beaucoup d'attentes. Et la preuve, c'est quoi? L'enfant, toutes ses attentes sont portées vers ses parents. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Papa, tu vas m'acheter ceci. Donc, l'enfant vient avec les promesses. Ok? Et quand vous faites une promesse à un enfant, il faut la tenir. Parce qu'elle a une grande espérance. L'enfant a une grande espérance. Et dans les églises, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants. Beaucoup de personnes qui viennent avec de grandes attentes, avec de grandes espérances, à tel point que même leur espérance dépasse les limites. Ils veulent tout avoir. Bien aimé, si vous donnez tout à l'enfant, vous allez le gâter. Il ne faut pas tout donner à l'enfant. Parce qu'il faut aussi apprendre à l'enfant à attendre. Il faut apprendre à l'enfant la patience. Il faut aussi apprendre à l'enfant qu'on n'obtient pas toujours tout dans la vie. Alléluia! Et dans nos églises, il y a beaucoup d'enfants. Plein d'espérance, plein d'attentes. Mais Dieu veut que tu quittes le stade d'enfant, que tu rentres dans le stade de fils. Alléluia! Parce que le fils, il ne panique plus, car il est conscient qu'il a un héritage. Et la Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu continues à être enfant, en fait, tu vas comme un esclave. L'esclave, il est prisonnier de ses émotions, de ses sentiments, de ses situations, de ses épreuves. Or, le fils, il est conscient de son héritage et il ne panique plus. Il est sûr. Il sait en qui il a cru. Il sait ce que Dieu lui a promis. Et même si la promesse tarde, il va l'attendre. Parce qu'il sait au fond de lui, par une ferme assurance, qu'elle s'accomplira. Oh, alléluia! Elle s'accomplira! Alors il ne panique plus. Bien aimé, celui qui a l'espérance prie. Mais celui qui a l'assurance ne prie plus. Il adore. Il adore! Alléluia! Bien aimé, et moi je ne prie plus. Je ne jeûne plus. Je n'intercède plus. Parce que je sais que je l'ai obtenu. Et cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, elle déclare, au verset 28, elle s'est dit en elle-même que si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. C'est ça l'assurance. Elle s'est dit au-dedans d'elle, une ferme conviction, une profonde conviction intime, que si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia! Et la Bible déclare, à l'instant, elle fut guérie. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. La Bible déclare qu'elle a été guérie sur le champ, à l'instant. Pourtant, à la fin du verset, du texte, Jésus lui dit quand même que, vas-y ma fille, ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Au verset 28, on dit qu'elle a été guérie, au moment où elle a touché le pan de la robe de Jésus. Mais à la fin du texte, on nous dit que Jésus dit, va ta foi t'a guéri et sois guéri de ton mal. À quel moment elle a été guérie? C'est la première fois qu'elle a été guérie. C'est la première fois où elle a été guérie. Parce que la dernière fois où Jésus dit, sois guéri, là ce n'est plus l'espérance. Ce n'est plus l'assurance. C'est maintenant la démonstration de sa guérison. Alléluia! Alléluia! Parce que l'espérance naît dans notre âme. On l'a vu tout à l'heure, l'espérance est une disposition de l'âme. Par contre, l'assurance est dans notre esprit. Hallelujah. Mais la démonstration touche notre corps. Oh, hallelujah. Elle touche notre corps. En fait, on sort de ce qui est dedans de nous, on manifeste cela à l'extérieur. Par un comportement, par une attitude, par quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Si elle, avant tu t'es courbé et qu'on a prié pour toi, que dans ton cœur, tu as eu dans ton cœur la conviction que tu es guéri, alors en ce moment, considère-toi comme guéri. Maintenant, ne t'arrête pas, assurance, va plus loin, rentre dans la dimension, la démonstration. Alléluia. Et le temps de courber, même si ça fait mal, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Ton nom a mal, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit, tu es guéri. La dame, il y a quelque chose qui lui a dit, elle était guérie. Elle le savait au fond d'elle qu'elle était guérie. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'elle fasse quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Tu as le dos courbé, tu as mal. Il y a une voix, une conviction dans ton cœur qui te dit que tu es guéri. Redresse-toi. Alléluia. Cours dans la salle. Voilà pourquoi Jésus, après avoir dit à quelqu'un, est-ce que tu crois que tu seras guéri? Il vérifie l'espérance. Quand la personne dit oui, je crois que je serai guéri, il vérifie l'assurance. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La démonstration. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible déclare, ma prédication ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Si tu priais pour avoir du travail, dans ton corps, tu as la preuve évidente que Dieu t'a exaucé. Lève-toi à 6 heures du matin. Oh, lève-toi, prends ta douche. Alléluia, fais ta toilette. Habille-toi comme quelqu'un qui va au travail. Prends le même bus que les gens qui vont au travail. Et va déposer tes CV. Alléluia. Et va déposer tes CV. Là, tu rentres dans la démonstration. Et le lendemain encore, c'est reparti. 6 heures, tu te réveilles. Tu t'habilles. Et tout le monde dans le bus te regarde. Mais celui-là, tout le temps, il prend le bus. Mais il descend où? Il travaille où? C'est pas leur problème. Alléluia. Tu sais, dans ton cœur, que tu dois trouver du travail. Alors, tu t'habilles correctement. Comme quelqu'un qui va au travail. Alors, tu prends ta mallette. Tu prends ton sac. Alléluia. Et tu vas au travail. Et dépose tes CV, dépose tes CV. Bien-aimé, quand Dieu va voir ça, Dieu va dire non, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Dieu va réunir le ciel, les anges. Il va dire non, on va faire une réunion au sujet de David. Il y a quelque chose qui se passe sur la terre. David, depuis pratiquement 3 mois, il se lève à 6 heures, voire même 5 heures. Il se prépare comme quelqu'un qui va au travail. Et il prend ses vêtements, il s'habille. Correctement, il prend les mêmes muscles que ceux qui vont au travail, il prend sa voiture, il fait le trajet pour aller au travail, il va déposer les CV. Et il se comporte comme quelqu'un qui travaille déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Les anges disent, donnez-lui le travail. Alléluia! Donnez-lui le travail! Et en ce moment, les cieux s'ouvrent, la gloire de Dieu tombe sur ta vie. Et un jour, un coup de fil va retentir. Monsieur, votre candidature a été retenue. Parce que les actes que tu poses ont démontré l'assurance de ton cœur. Tu pries depuis longtemps pour avoir un mari. Mais tu te comportes comme une personne qui est célibataire. Même les anges, quand ils te regardent, ils te voient célibataire. Mais comment veux-tu avoir le mari? Puisque même quand le ciel te regarde, on voit que tu es célibataire. Sur ton front, c'est écrit célibataire. Donc, tu es connu partout célibataire. Ta carte de visite, célibataire. Même au ciel, en enfer, tu es connu comme célibataire. Mais au fond de toi, tu as prié et Dieu t'a déjà dit que voilà, tu vas avoir un mari. Mais ton comportement va tellement choquer le ciel qu'à un moment donné, bien aimé, tout ce que tu vas demander, ça va attendre. Par contre, si tu attends un mari ou une femme, bien aimé, et que dans ton cœur, tu as la preuve que Dieu t'a exaucé, comme cette femme qui à l'instant a su dans son cœur qu'elle a été guérie, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas commencer à changer ton mode de vie. Même ta façon de t'habiller. Ne t'habille plus comme un célibataire. Un jeune homme toujours en jean, jinko, là, yo, man, ya. Alléluia. Parce que mon frère, les sœurs aujourd'hui cherchent des hommes sérieux. Donc tu mets toute ta casquette derrière, tu commences à marcher, oh yaman, yaman, marcher, tu n'es pas encore mariable. Alléluia. Si tu as ton cœur, la conviction que Dieu t'a déjà dit, mais il y en a même qui me voient, pasteur, le Seigneur m'a montré telle sœur. Je regarde le frère, je dis, frère. Je commence un peu à conseiller le frère que mon frère, on va encore prier. Il dit que non, Dieu m'a parlé. Parce que quand je te dis ça, frère, je sais, je connais la sœur. Je connais le dossier de tout le monde à l'église. J'ai dans tes têtes tout le monde. Donc quand je te dis ça, c'est pas que je remets en cause ce que tu as reçu de la part de Dieu. La parole que tu as reçue, c'est une réma. La réma apporte l'assurance. Maintenant, je te conseille par rapport à la démonstration. Parce qu'au niveau de la démonstration, je vois que tu as encore des manques. Donc, quand je te dis ça, c'est pour te dire qu'en fait, la sœur, elle aime des frères de tel profil. Donc, frère, moi, je vois encore en toi que tu n'as pas encore le profil pour la sœur. Mais je peux te dire ça aussi brut comme ça. Tu comprends? Donc, je te conseille, je dis que non, change un peu ta façon de t'habiller. Hein? Essaye un peu de rester un peu plus classe. Quand tu parles, essaye un peu de soigner aussi ta façon de parler. Et puis, ta façon de vivre, là, sois un peu plus propre. Parce que cette sœur-là, je t'assure. Mais oui! Alléluia! Alléluia! Quand tu viens à l'église, passe un petit coup de parfum un peu, parce que cette sœur-là, elle est très pointue. Mais je vous dis, je connais tout le monde ici. Moi, on m'a déjà fait des remarques. Hein. J'entends, tu fais la bise comme ça, oh, pasteur, c'est tel parfum que tu as mis. Il dit, Donc quand je te dis ça, frère, c'est que je connais que la sœur est pointue. Donc fais attention, ok? Et puis, ta façon de gérer l'argent. Ok? Même si tu as l'assurance dans ton corps que c'est elle ta femme, tu ne pourras jamais entrer en possession de ton héritage, le mariage, si tu ne sais pas encore gérer ton argent. Tout en tu es KFC, McDo, hein, shish kebab. Mais la sœur, elle, c'est tout est planifié. Ok? Il y a un budget pour ça, un budget pour ça. Mais tu gères ton argent en désordre. Et la sœur connaît ta vie parce que tout le temps à l'église, tu demandes qu'on prie pour toi parce que tu es tout le temps à découvert. Oh, je connais la vie, la sœur. La sœur, elle est exigeante au niveau finance. Donc, frère, quand je te parle là, quand je te dis, frère, c'est pas pour te remettre en cause, mais sinon, tu as reçu, c'est vrai, tu as la réma, c'est vrai, elle est là dans ton cœur, il y a l'assurance. Maintenant, rentre dans la démonstration. Alléluia. Tu ne sais pas prendre soin d'une femme. Tu veux maintenant te marier. Bien-aimé, quand je te dis, frère, commence à épargner, c'est pour te dire que la sœur, là, elle a un grand rêve par rapport à son mariage. Je l'ai déjà eu en entretien. Donc, quand j'essaie d'analyser, elle, son mariage, elle voit la longue traîne. Mais toi, tu veux te marier, tu ne veux même pas encore épargner. Frère, écoute-moi. C'est pas que je remets en compte l'assurance cette fois. Non, je vais t'entraîner dans la sphère de la démonstration. Alléluia. Je vais te faire rentrer dans la sphère de la démonstration. Parce que, bien aimé, il y a deux sphères qui vont nous permettre effectivement d'obtenir notre héritage. Il y a deux sphères. La première sphère, c'est lorsque Jésus parle à Nicodème. Il dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. La deuxième sphère, il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Donc, on peut voir les choses que Dieu nous montre sans entrer dans ces choses. Aussi longtemps qu'on va rester là à voir ces choses dans l'esprit, oh, je vois, alléluia. Comme ce frère qui disait un jour, il dit, je vois la sœur est là. Ah, j'ai prié et je viens une aigle qui est arrivée, qui a pris la sœur, s'envolée. J'ai crié au nom de Jésus, j'ai arrêté l'aigle. Il fait que voir. En fait, il rêve. C'est normal. Parce que le rêve est aussi du domaine de la foi. Quand tu vois des choses en esprit, c'est bien, c'est le rêve. Mais si tu restes dans le domaine du rêve, tu ne peux pas obtenir ce que Dieu te promet. Alléluia! Tu ne peux pas. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance te permet de voir seulement. Donc si tu vois déjà, c'est bien. C'est la preuve que tu es né de nouveau. Alléluia! Bon, si tu ne vois encore rien, ça veut dire que ton intelligence est encore voilée. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on va faire l'appel. Tu viendras. Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas voir. Les écailles vont tomber de tes yeux comme l'apôtre, comme Saul. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Mais quand tu vois déjà, ne t'arrête pas à voir. Parce que Jésus a encore dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Maintenant, il faut que tu changes là-dedans, ta mentalité, ta façon d'être, pour rentrer dans la dimension de la démonstration. Et il y a beaucoup de choses, des raisonnements hautains, des hauteurs, qui se dressent contre la connaissance de Christ, et qui bloquent, et qui limitent les promesses de Dieu, les choses qu'on voit dans notre esprit, et qui nous empêchent de rentrer dans ces choses. Il y a beaucoup de choses dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions, qui nous emprisonnent, et qui combattent notre héritage, qui nous empêchent d'accéder à notre royaume, au royaume de Dieu, à nos bénédictions, à notre guérison, à nos délivrances. Alléluia! Quand tu es encore dans la dimension de voir, tu es dans ce que moi j'appelle la sphère d'intérêt. Donc, tu es dans l'intérêt, dans l'espérance, dans l'assurance, ok? Tu es attente, ok? Tu es là, et tu, voilà, tu es dans la sphère d'intérêt. Et ceux qui sont dans cette sphère-là, la preuve c'est quoi? Ils demandent tout le temps. Tout le temps, ils demandent. Ils demandent. On donne, on prie, etc. Et Dieu révèle, Dieu révèle, Dieu révèle. Mais jusqu'à présent, leur condition n'a jamais changé. Maintenant, si tu veux quitter la sphère d'intérêt, alors tu dois un peu laisser Dieu renouveler ta mentalité pour changer ton comportement. En ce moment-là, tu ne vas plus seulement voir le royaume de Dieu, mais tu vas aussi rentrer dans le royaume de Dieu, parce que c'est dans le royaume de Dieu que se trouve ta bénédiction. C'est dans le royaume de Dieu que se trouve ta guérison. C'est dans le royaume de Dieu que se trouve ta délivrance. C'est dans le royaume de Dieu que se trouve ton travail. C'est dans le royaume de Dieu que se trouve ta femme, ton mari. C'est dans le royaume de Dieu que se trouvent tes finances. Alléluia! Toutes ces choses, tout don parfait, toute grâce excellente, nous vient du royaume de Dieu. Et toutes les bénédictions spirituelles sont dans le royaume de Dieu. Et quand tu quittes la dimension de voir, tu quittes la sphère d'intérêt. Et quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu rentres dans la sphère d'influence. Et là, tu deviens ambassadeur. Oh, alléluia! Tu influences. Là, tu ne pries même plus. Tu as dépassé le stade d'adorer. Tu causes avec Dieu. En fait, tu viens, tu entres, tu ouvres la porte, tu t'assois, tu causes avec lui. Tu t'installes, tu croises tes pieds et tu causes avec ton Père. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu causes avec Dieu. Quel est le niveau de ta foi aujourd'hui? Dis-moi le niveau de ta foi. Et je te dirai pourquoi tu es encore dans tes problèmes. Je parle de la foi qui déclenche le miracle. Quel est le niveau de ta foi? Lève-nous, nous allons prier.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.